Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau de TV5 Monde pour un nouveau numéro d'International avec RFI, le journal Le Monde. Géographiquement, c'est le plus grand pays de la planète. Après avoir pesé sur la marche du monde, puis s'en être écarté, la Russie est indéniablement de retour sur la scène internationale. Elle se veut aujourd'hui l'arbitre des crises, notamment Proche-Orient, mais elle est accusée aussi de s'immiscer via Internet dans les affaires intérieures de pays comme les États-Unis. Une enquête est en cours, d'ailleurs, concernant l'élection présidentielle de Donald Trump en 2016. Artem Studenikov, ministre conseiller à l'ambassade de Russie, est l'invité d'International. Et pour ouvrir ce magazine, un clin d'œil, ce calendrier 2018 à l'effigie du président russe Vladimir Poutine.
Dans ce calendrier, il y a Vladimir Vladimirovitch Poutine dans tous ses états. En février, le président russe fait du hockey. En mars, du judo. C'est vrai qu'il est ceinture noire. L'été, la température monte, la chemise tombe, Poutine va à la chasse. L'hiver, il se rhabille, c'est Delta Plane. Certaines photos ont au moins 10 ans. À écouter la télévision russe, ce calendrier a un succès fou.
Bonjour Artem Sudnikov. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je ne sais pas si vous connaissiez ce calendrier, mais on l'a choisi parce que le culte de la personnalité, c'est quelque chose que la Russie, en tout cas l'Union soviétique, a beaucoup pratiqué. Et là, Vladimir Poutine, ça fait 18 ans qu'il est au pouvoir. Il a été réélu pour un mandat de 6 ans. Il sera donc depuis 24 ans au pouvoir à la fin de ce mandat. C'est presque aussi long que Staline l'a été à la tête de l'Union soviétique. Le même dirigeant depuis près de décennies. Cela donne l'image d'un pays autoritaire plus que démocratique.
Je ne peux pas partager votre point de vue.
C'est
un point de vue quand même, parce que n'oubliez pas qu'il y avait une pause entre deux mandats présidentiels.
Il
était Premier ministre et cela reflète le fait que le président respecte la Constitution. Il a quitté le pouvoir, il était Premier ministre et après il a été réélu. Ce qui est prévu par la législation russe. En ce qui concerne la culte de personnalité, je vous assure qu'il n'y a aucune culte de personnalité en Russie. Nous avons une très mauvaise expérience. Et Poutine lui-même, il déteste ça. Tout simplement, il est à reconnaître que Poutine, c'est un président populaire. Qui est populaire non seulement en Russie, mais aussi dans le monde. Je peux vous confirmer que nous recevons pas mal de lettres de soutien et de sympathie justement adressées au président Poutine de la part des Français.
Mais et vous dites qu'il déteste le culte de la personnalité, mais il a par exemple ce calendrier, c'est un clin d'œil, mais il accepte de poser
situations. La Russie, c'est un pays libre. Chacun peut faire des calendriers avec... certains font des calendriers avec les jeunes filles et les autres préfèrent faire un calendrier avec le président qui, je répète, est très populaire. Et comprenez-vous que la vie a beaucoup amélioré. C'est beaucoup amélioré en Russie depuis son arrivée au pouvoir. Et ce calendrier, c'est encore, il reflète une fois de plus que les gens, il y a des gens qui sont vraiment reconnaissants. Et cette popularité, c'est une chose absolument réelle. C'est pas artificiel.
Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose ce focus sur la politique étrangère de la Russie ces dernières années. Un focus réalisé par Bastien Bory et Audrey Demar.
30 septembre 2015. Des chasseurs Sukhoi volent au secours du régime de Damas. Au sol, les cibles de ces bombes s'appellent État islamique et rebelles syriens. Voici la première intervention russe hors des frontières de l'ancienne URSS depuis l'Afghanistan en 1979. Moscou veut imposer en Syrie la Pax Putina en maintenant au pouvoir son allié Bachar al-Assad.
Le seul moyen de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est de prendre les djihadistes de vitesse et les détruire avant qu'ils n'arrivent chez nous.
Pris de vitesse, d'autres le seront aussi. Après une décennie 2000 pendant laquelle Vladimir Poutine privilégie le redressement économique de son pays, Européens désunis et Américains désengagés assistent au retour des Russes au Moyen-Orient et dans le jeu mondial. Mais qui dit jeu, dit règles. Et Moscou est accusé par les Occidentaux qui la sanctionnent d'enfreindre les règles du droit international en annexant la Crimée en 2014 en marge du conflit ukrainien. Voilà qu'un air de déjà-vu plane sur la map monde. Une logique de bloc rendant souvent inopérant le Conseil de sécurité de l'ONU, où les vétos russes s'accumulent. Une influence étendue au cyberespace, qui vaudra à la Russie des soupçons d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Animations à l'appui, Poutine semble même relancer la course à l'armement avec l'OTAN déployée à ses frontières. C'était en mars dernier devant le Parlement russe.
Doté d'une ogive nucléaire, d'une portée presque illimitée, et capable de contourner tous les systèmes de défense, nos nouveaux missiles sont invincibles.
Le prix de cette offensive globale, c'est d'être souvent sur le banc des accusés. Affaire Litvinenko, puis Skripal, où le Kremlin est pointé du doigt par une bonne partie de l'Occident. Mais Artem Sudennikov, vous qui êtes un porte-voix du pouvoir à l'ambassade russe en France, votre président désormais à la tête du pays jusqu'en 2024, doit aussi faire face à des crises internes, là où la pauvreté et la corruption s'ajoutent à des libertés publiques toujours plus fragilisées.
Artem Sudennikov, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad nous ont rejoints. Sophie, une première question.
Monsieur Sudennikov, donc l'investiture du président Poutine est prévue pour le 7 mai prochain. Deux jours avant, il y a un appel à la manifestation lancée par Monsieur Navalny. Est-ce qu'on peut penser que les manifestations de l'opposition va pouvoir manifester librement quelques jours avant?
Évidemment, la manifestation sera possible, comme vous savez que les manifestations en Russie sont très fréquentes, mais selon la législation russe, il doit obtenir en aval des autorités municipales qui vont désigner l'endroit où cette manifestation peut avoir lieu, soit va accepter la demande d'Alexei Navalny. Je ne suis pas au courant où il a demandé d'organiser cette fois-ci la manifestation, mais en principe, tout est possible. Les manifestations se passent tout le temps en Russie.
Oui. Monsieur Sudennikov, je vais revenir un peu sur les affaires internationales, comme on l'a vu et entendu dans le sujet qui précédait. Est-ce qu'entre la Russie et les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, il y a un retour de ce qu'on appelle la guerre froide, ou est-ce que c'est autre chose et encore plus dangereux, puisqu'il y a des accrochages militaires, ou du moins des troupes qui se côtoient parfois, d'un peu près, dans le ciel britannique, français, en mer, etc.
La guerre froide, nous espérons que nous essaierons tout de même, nous réussirons nous tous éviter que les choses prennent cette tournure. Nous ne voulons pas la guerre froide. Nous pensons que la guerre froide est restée dans le passé. La guerre froide, c'était le résultat d'une confrontation pendant des longues années entre deux systèmes diamétralement opposés de tout le point de vue, et tout d'abord du point de vue idéologique. Aujourd'hui, nous n'avons pas de différences idéologiques. Nous appartenons tous au même système. La Russie n'est pas l'Union soviétique aujourd'hui. Nous n'avons pas d'une idée messianique apportée partout dans le monde. Notre but, c'est de moderniser notre pays et évidemment assurer les conditions les meilleures pour le faire. Donc, pour vous donner la réponse, nous ne pensons pas que nous sommes là. Mais il est à reconnaître que la situation dans les relations entre la Russie et l'Occident collectif est très tendue. C'est vrai. Vous avez mentionné la situation sur le terrain en Syrie. Oui, voilà pourquoi nous étions très très préoccupés par les frappes annoncées, ou presque annoncées, par certains pays occidentaux. Mais Dieu merci, il y a des contacts entre les militaires, et il y a un canal d'information entre les militaires américains et les Russes qui sont sur le terrain. Et les militaires, ils comprennent mieux que certains en politique qu'une confrontation entre deux forces si puissantes dans la région peut avoir des résultats.
Monsieur Sudennikov, à propos de ces frappes aériennes, effectivement, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, le 14 avril dernier, on a entendu à Moscou que ceux qui avaient mené ces frappes devaient s'attendre à des conséquences. Alors, quelles seront-elles, ces conséquences,
Monsieur Sudennikov? Nous avons prévenu que nous allons assurer la sécurité
des intérêts russes en Syrie, c'est-à-dire la vie de nos militaires qui sont présents sur le sol syrien.
Donc pas de conséquences au-delà de l'épisode de frappe aérienne.
Nous avons prévenu que nous allons défendre les sites occupés par les Russes. Nous avons prévenu que
donc il n'y a pas eu d'incident.
Il n'y en a pas eu d'incident, Dieu merci, mais je souligne, nous avons prévenu que si par exemple vous voulez frapper les centres de commandement, les états-majors syriens, sachez que les conseillers militaires russes peuvent être présents.
D'accord,
mais
il n'y aura pas de conséquences au-delà de voilà. Ces frappes aériennes pour les pays qui ont mené
les trois
frappes.
Les trois pays occidentaux que vous avez mentionnés ont fait tout pour éviter les bavures. Et voilà pourquoi nous n'avons pas réagi.
Et finalement, cet épisode, Monsieur Studenikov, est-ce que c'était pas un peu une sorte de grand théâtre où tout le monde a joué à se faire peur, mais... vous avez été prévenu des sites qui seraient visés, vous avez vous-même prévenu les Syriens qui ont évacué ces sites, il y a zéro victime.
Vous savez que la Russie n'a rien à voir avec l'idée de ces frappes, il faut poser cette question plutôt à mes collègues français, américains et britanniques, mais en tout cas c'est la question que nous nous posons, à quoi bon frapper la Syrie avec les résultats qui ne sont pas évidents du tout.
Monsieur Studenikov, est-ce que ça veut dire que, à partir de maintenant, les Russes, qui sont quand même encore très présents aux côtés de Bachar al-Assad en Syrie, peuvent garantir le fait qu'il n'y aura plus jamais d'attaque chimique en Syrie?
Nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas eu d'une attaque chimique à Douma, dans la Ghouta orientale. C'est notre position ferme et très officielle. Je vous rappelle que hier, ou avant-hier, notre délégation permanente auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a organisé un briefing à La Haye. Elle a fait venir à La Haye une dizaine de Syriens qui ont participé dans la mise en scène qui a été faite.
On va en parler parce qu'effectivement, vous avez D'accord. organisé une conférence de presse à La Haye avec votre mission locale auprès de l'OIAC. Il y avait un enfant de 11 ans qui a témoigné. Il y avait deux adultes.
Ils étaient une dizaine.
Les informations dont je dispose, c'est deux adultes. L'OIAC vous a demandé d'avoir accès à ces témoins. Vous avez refusé. Et elle vous a demandé de reporter cette conférence de presse en attendant les résultats des prélèvements qu'elle a fait en ayant accès aussi 15 jours après avoir demandé cet accès à Douma. Pourquoi avez-vous refusé de l'accès aux témoins que vous présentiez?
Permettez-moi d'abord vous rappeler comment les choses se passaient. À la veille des frappes, les représentants de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sont déjà arrivés au Liban et les représentants des autorités syriennes et les représentants de la police militaire russe les attendaient en Syrie samedi matin. Et vous savez que dans la nuit du vendredi à samedi, les trois pays occidentaux ont effectué les frappes. Voilà pourquoi le début des travaux de ces observateurs a été reporté.
Après une semaine après les frappes.
Sachez aussi que la Russie et même la Syrie n'étaient pas seules parties qui devraient décider comment et quand il faut commencer ces travaux. C'est le département de sécurité de l'ONU qui a été impliqué dans cette affaire. C'est lui qui devrait donner le feu vert. Et la situation de sécurité dans la Douma n'était pas propice au début des travaux.
Quand
on a assuré la sécurité, les observateurs sont venus.
Mais pourquoi ces témoins que vous avez présentés, qui racontent une mise en scène, soi-disant, de cette attaque chimique, pourquoi n'avez-vous pas permis aux enquêteurs de l'OIAC d'avoir accès à eux?
Tout simplement, je ne peux pas vous confirmer cette information que quelqu'un, lui, ne leur pas permis de rencontrer ces gens-là. Je n'ai pas de cette information, je ne peux pas commenter ça. Mais je sais que les observateurs, les experts de l'organisation se trouvent sur le terrain et je pense qu'ils auront la possibilité de rencontrer les éventuels blessés, les gens qui étaient sur le terrain, les témoins. Ils sont là, ils travaillent et on attend les résultats de leur mission.
On peut questionner tout de même le degré de liberté des gens qui sont amenés à s'exprimer dans ces circonstances.
Vous parlez des Syriens?
Des témoins que vous avez mis en avant, qui sont montrés à la presse, à l'international.
Ils sont venus, de 11 ans, je rappelle.
Ils sont venus tout simplement, absolument librement. Leur état de santé, vous voyez qu'ils sont en pleine forme. Donc, pourquoi nous avons fait amener ces gens à La Haye? Parce que tous ces gens figuraient dans les cadres. Sur les cadres présentés par l'organisation Les Casques Blancs et tous ces gens, leurs images, le traitement qu'ils ont subi pendant cet incident, tout le monde a vu ces cadres-là et nous avons fait venir les mêmes personnes
à La Haye pour démontrer que...
Mais vous n'avez pas permis aux experts internationaux d'avoir accès à ces témoins.
Monsieur Studenikov, il y avait un mécanisme qui s'appelait le GIM, qui impliquait l'ONU et l'OIAC, pour pouvoir vérifier sur le terrain en Syrie la véracité des attaques chimiques et leur origine. La Russie a décidé au Conseil de sécurité de stopper le financement de cet organisme qui, depuis, n'existe plus. Pourquoi ? Ma deuxième question, la France va présenter, est en train de présenter un texte au Conseil de sécurité pour remettre en place un mécanisme de vérification de l'utilisation des armes chimiques sur le terrain en Syrie. Est-ce que vous serez favorable à ce nouveau texte, ce nouveau projet de résolution à l'ONU?
Je commence par votre deuxième question. C'est comme ça qu'on travaille au Conseil de sécurité. Un pays présente son projet. Après, les experts travaillent. Je pense que nous allons proposer nos amendements. On va essayer de corriger le texte si il ne nous convient pas. Si les partenaires français...
Il vous convient ou pas, l'état actuel?
Je ne peux pas vous dire. Il faut étudier ce projet. Mais en tout cas, au moment où les demandes russes sont satisfaites, les propositions russes sont acceptées, nous pouvons toujours arriver à adopter une résolution, et on a adopté plusieurs résolutions ensemble.
Alors pourquoi avoir supprimé le premier?
Pourquoi on a supprimé? Parce qu'on n'était pas satisfait par la qualité et les méthodes de travail de cet organisme.
C'est-à-dire
Son travail, selon notre point de vue, était politisé, ce travail n'était pas transparent, et nous avons essayé de modifier le statut et de modifier le fonctionnement de ce mécanisme, et on a proposé notre propre projet de la résolution qui n'a pas été accepté par nos partenaires occidentaux. Dans cette situation, on était obligé d'apposer notre veto sur le prolongement des travaux de ce mécanisme.
Monsieur Studenikov, pour finir avec la Syrie, Bachar al-Assad, c'est votre allié. Est-ce qu'il pose pas des problèmes parfois? Vous voulez négocier avec des gens, il dit « moi je ne négocie avec personne ». Il faut un processus de paix, il dit « il n'y a pas de processus de paix, je suis le président de la Syrie, il faut reprendre toute la Syrie ». Est-ce que c'est pas un problème, Bachar al-Assad? On l'accuse de bombardement chimique, on l'accuse de tout un tas d'horreurs, et c'est vous qui vous retrouvez chaque fois sur la sellette, sur la scène internationale. C'est quoi votre relation avec Bachar al-Assad?
Si vous permettez, je pense quand même que votre approche, il est un peu simpliste, parce que nous avons réussi à réunir à Sochi, par exemple, lors de la réunion du congrès du dialogue national syrien, on a réussi à réunir les représentants du gouvernement et de plusieurs branches de l'opposition.
L'opposition n'est pas venue. La majorité n'est pas venue.
C'est pas vrai. L'opposition a été bien présente. Oui, il y avait des incidents en avion avec 70 personnes est arrivé de Ankara et
les Kurdes ne sont pas venus non plus.
Mais ils ont donné leur pouvoir aux représentants turcs de les représenter. Donc, je veux dire que c'est pas facile de travailler avec les gens sur le terrain.
Est-ce qu'il veut la paix?
Nous pensons qu'il est intéressé. Il comprend très bien, comme nous, il comprend très bien que la crise syrienne ne connaît pas la solution militaire.
Je veux reprendre toute la Syrie.
Sachez que nous travaillons avec les partenaires syriens, avec les partenaires turcs, avec les partenaires iraniens pour essayer de trouver la solution politique à cette crise.
Est-ce que vous pourriez lâcher Studenikov?
C'est une question un petit peu provocatrice. Écoutez, nous respectons nos
engagements. Si vous n'arrivez pas à des solutions diplomatiques...
Je peux vous dire une autre chose. Nous sommes venus en Syrie non pas pour sauver Bachar al-Assad ou sa famille. Nous sommes venus en Syrie en 2015 pour sauver l'État syrien qui était déjà au bout du souffle sous la pression des djihadistes de toutes sortes, sous la pression surtout de l'État islamique qui contrôlait déjà une grande partie du territoire syrien. Voilà, c'était le but de notre opération militaire, sauver l'État syrien comme dernier rempart devant cette menace djihadiste. Donc, nous avons dit tout de suite que c'est aux Syriens de décider, de prendre la décision sur le destin de Bachar al-Assad.
Mais les discussions en ce moment se déroulent entre Turcs, Iraniens et Russes sur le destin politique de ce pays. Or, par exemple, la Turquie a salué les frappes occidentales dernièrement.
Cela reflète que la situation est très complexe et chaque pays, chaque acteur important sur ce terrain-là a son propre vision, a ses propres intérêts et ça complique encore plus la tâche commune.
Mais il n'est pas question de revenir dans des discussions sous l'égide de l'ONU?
Écoutez, notre processus que nous avons entamé à Astana doit épauler, en principe notre but c'est d'épauler Staffan de Mistura. Jamais on ne disait pas qu'on oublie les pourparlers à Genève. Au contraire, Astana a
une vocation de promouvoir le processus politique à Genève. Et nous sommes là pour aider à nos partenaires de l'ONU. Et nous croyons que le processus pacifique et de négociation doit être mené par l'Organisation des Nations Unies. Telle est notre position de principe.
Monsieur Todinikov, continuons si vous voulez bien sur l'actualité, avec l'actualité sur la scène internationale. Il y a quelques jours, le président français était à Washington. Il a proposé de travailler sur un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Cette proposition a reçu une fin de non-recevoir de votre pays. Pas question de trouver une alternative à l'accord qui existe déjà, a dit le Kremlin. Est-ce que cette proposition française a surpris Moscou? Est-ce que le président Poutine en avait-il été informé?
Il était de notoriété connue, de la notoriété publique, que la Troïka occidentale a des consultations avec les États-Unis, compte tenu les réticences des Américains par rapport à
ce
joint comprehensive plan of action, cet accord sur le nucléaire iranien. On savait que nos partenaires se parlent et on disait toujours que nous ne sentons pas liés par tous les accords qui seront éventuellement
rediscuté
par nos partenaires occidentaux. Parce que pour nous, la chose la plus importante, c'est le pierre angulaire peut-être du système de sécurité dans la région, c'est la préservation, c'est la sauvegarde de cet accord conclu avec Iran. Après 10 ans du travail acharné, après des efforts énormes qui ont été déployés, après la construction de cet équilibre très fragile et très fine, le résultat des compromis de chaque côté. Pour nous, c'est vraiment, c'est un des plus grands succès de la diplomatie internationale. Et aujourd'hui, nous ne voyons aucune raison de revoir cet accord, parce que tout simplement, l'idée d'un accord global, d'un super accord qui va englober non seulement l'accord actuel, mais aussi trois d'autres, disons, pivots ou secteurs ou aspects très importants, à notre avis, c'est pas irréalisable. Ça va avoir des effets néfastes pour la situation dans les régions et pour cet accord avec Iran.
Monsieur Soudanikov, si Donald Trump se retire de l'accord à partir du 12 mai, comme il a menacé de le faire, et si quelques mois plus tard, l'Iran reprend l'enrichissement de l'uranium, quelle sera la position de la Russie ?
Je peux vous dire que la Russie va respecter tous ses engagements selon cet accord jusqu'au moment où tous les autres pays qui ont signé cet accord le respectent. Donc nous allons faire tout, nous allons continuer notre dialogue avec tous nos partenaires qui ont participé dans ce travail pour préserver cet accord.
Et est-ce que vous direz aux Iraniens, il ne faut pas enrichir ?
Il est trop tôt d'évoquer cette éventualité. Il faut attendre le 12 mai. Nous comprenons que la situation est assez tendue et dangereuse. Nous sommes attachés à la sauvegarde, à la préservation de cet accord qui, comme je vous ai dit, est résultat d'un très long travail et des efforts considérables effectués par 6 pays et par l'Iran.
Mais les Européens, Angela Merkel est repassée d'ailleurs à Washington après le président Macron, estiment que cet accord n'est pas une fin en soi, qu'il mérite d'être assorti d'autres mesures, notamment pour un meilleur équilibre des forces dans la région. Est-ce que par exemple, la Russie estime que l'Iran a vocation à rester en Syrie, comme elle est aujourd'hui présente ?
Pour nous, la présence de l'Iran sur le sol syrien est tout à fait légitime, parce que l'Iran est invité par le gouvernement légitime de la Syrie, reconnu comme tel par la communauté internationale, par les Nations Unies, et je ne vois pas pour quelle raison l'Iran doit évacuer la Syrie. C'est une question des relations irano-syriennes. Par contre, évidemment, nous sommes intéressés que la situation générale dans la région se stabilise. Parce que vous savez combien le chaos a envahi toute cette région. Et je vous rappelle que tout ça, c'est le résultat de de cette aventure américaine en Irak en 2003.
Monsieur Soudanikov, nous parlions du nucléaire. Le 1er mars dernier, le président Poutine a prononcé un grand discours. Et à cette occasion, il a présenté une nouvelle gamme de missiles nucléaire, qu'il a qualifié d'invincible, avec un rayon d'action, a-t-il dit, pratiquement illimité. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre, monsieur Soudelnikov? Est-ce que c'est une nouvelle course à l'armement? Quelle est la nature du message qui est envoyé aux Occidentaux, là?
J'aimerais bien que vous attachiez plus d'importance sur la première partie de son discours.
Je pensais que vous alliez me répondre ça.
Où il a dit que l'ennemi... Non, je veux dire que Poutine, elle a dit très clairement.
Oui.
Notre ennemi numéro un, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Occident, c'est pas la France, c'est pas la Grande-Bretagne.
Mais alors pourquoi cette présentation?
C'est le retardement technologique.
Oui,
c'est
la
nécessité de moderniser la Russie. Voilà, c'est notre tâche numéro un.
Ça, c'est la première modernisation de la Russie passe par l'armement nécessairement?
Pas forcément, mais nous nous sentons parfois menacés par l'Occident. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de tout simplement de renforcer, d'investir dans notre armée, dans notre système de défense. Je vous rappelle que le budget militaire russe, c'est 70 milliards de dollars, et le budget militaire des États-Unis, c'est 700 milliards de dollars. C'est deux chiffres absolument incomparables.
Et au moment en Europe, vous
parlez de menaces. En Europe, le fait que la Russie ait repris la Crimée sans autre forme de procès justifie de la part de certains de ces États une politique d'investissement dans l'armée un petit peu plus...
Mettez-vous à notre place. Vous dites que la Russie a repris la Crimée. Tout d'abord, je ne peux pas accepter cette formule. Non, c'est pas un fait. Fait, c'est que la Crimée, les peuples de la Crimée ont décidé de se réunifier avec la mère patrie, avec la Russie. Mais imaginez-vous, d'accord, vous dites que la Russie a repris la Crimée et vous voulez que l'OTAN reprenne la Crimée. Vous voulez que nous acceptions ça? Parce que c'était la question se posait comme ça. La Crimée, c'est le résultat d'un coup d'État absolument illégitime, d'un coup d'État armé, effectué par les forces ultranationalistes, radicales, quasi-fascistes, qui ont arrivé au pouvoir en Ukraine au février 2014. Tout ce qui était après, c'est le résultat de ce coup d'État. Voilà, c'est une histoire absolument inédite. Les peuples de la Crimée se sentaient absolument menacés par ces forces radicales qui se proposaient déjà de venir en Crimée pour prendre sous leur contrôle de ce péninsule. Dans ces situations-là, les peuples de la Crimée ont décidé d'organiser ce référendum et la Russie a décidé d'accepter leur demande.
Monsieur Tudyev, poursuivons avec les tensions avec l'Occident, notamment avec cette fameuse affaire maintenant qui porte le nom de Sergueï Skripal, cet espion qui a été empoisonné avec sa fille en Grande-Bretagne. Alors, ça a provoqué une grande crise avec des expulsions de diplomates, du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. On parlait tout à l'heure de l'OIAC. Elle a confirmé que cette substance utilisée était bien celle découverte par les laboratoires britanniques, c'est-à-dire un agent chimique d'origine russe. Le laboratoire britannique l'a nommée, elle, cette substance, comme celle du Novichok. Novichok, vous dites... il n'existe pas, mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent que oui, Novichok, c'est un programme d'armes chimiques qui a été développé durant l'Union soviétique dans les années 70. Vous vous dites qu'il n'existe pas.
Certains disent que d'ailleurs ce programme a perduré au-delà.
Pourquoi en est l'existence?
D'abord, je dois vous dire que quelle était la conclusion des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques? Ils ont confirmé la formule des Britanniques. Ils n'ont pas utilisé le nom Novichok.
Oui, je l'ai dit. Ils ont dit qu'elle était bien la formule.
Et ils n'ont pas confirmé ni le pays d'origine.
Non, mais ça,
ils n'ont pas confirmé.
C'est pas leur travail.
Ils n'ont donné aucune preuve que. En tel et tel état, pouvait utiliser cet agent toxique. Donc, je ne peux que vous répéter que tous les travaux dans ce domaine, toutes les recherches dans le domaine de la chimie militaire, ont été arrêtés en Russie depuis 1992, selon l'arrêté présidentiel. Tous les stocks des armements chimiques ont été détruits en 2017, et tout ça toujours sous contrôle très strict de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
En êtes-vous bien sûr? Il y a des témoignages aujourd'hui qui prétendent le contraire, que le programme a perduré. Est-ce que
comment vous voulez que je
commente
ces témoignages? Il n'y a aucune preuve concrète et je peux vous confirmer que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien sur la table comme preuve réelle et concrète et irréfutable. Toujours des accusations, mais ah bah, pas, a, de preuve, des, pas de fait.
L'OIAC, ce sont des prélèvements qui ont été faits sur...
Ils ont confirmé la formule. Oui. Mais selon notre...
C'est une formule, selon eux, qui est donc celle établie par le laboratoire britannique, c'est-à-dire un agent chimique russe.
Qui a dit ça, que c'est un agent chimique
russe?
L'OIAC. Non, ils ont confirmé que l'agence, le laboratoire britannique a fait la même conclusion.
Oui.
Mais... Personne ne peut vous confirmer que c'est une formule qui a été élaborée élaborée en Russie ou que cet agent concret toxique a été élaboré par la Russie.
Alors selon vous, que s'est-il passé?
Si vous permettez, je voudrais bien vous rappeler que plusieurs chercheurs ex-soviétiques ont quitté le territoire de la Fédération de Russie après 91 et ont apporté non seulement les formules, mais leur expertise, leurs connaissances, et ils ont beaucoup coopéré avec certaines structures occidentales quand ils se sont installés à l'Occident. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si il y avait des programmes chimiques en Union soviétique, mais aujourd'hui cette formule qui a été d'ailleurs publiée même dans l'internet, cette formule était accessible aux plusieurs acteurs internationaux, aux plusieurs pays.
Comment vous interprétez alors que c'est les pays occidentaux, nombreux pays européens, 14, décidé de sanctionner la Russie?
Nous avons exprimé notre protestation.
Mais comment vous le comprenez, monsieur Souninikov?
C'est comme ça que ces pays comprennent la solidarité transatlantique. C'était la décision dictée par cette solidarité.
Nous comprenons pas. Le fait que les autres Européens finalement se soient
non,
mis sur
écoutez,
le...
pourquoi nous devons être surpris? Nous avons déjà vu la réaction solidaire des pays occidentaux après la réunification de la Crimée avec la Russie. Donc ce n'était pas une surprise pour nous. Mais quand même, je vous rappelle que seuls 14 pays, si je ne me trompe pas, seuls 14 pays membres de l'Union européenne ont décidé d'expulser les diplomates russes. Les autres membres de l'Union européenne n'ont pas pris cette décision.
C'est plus de la moitié. Si vous voulez, on va continuer peut-être. Le président français Emmanuel Macron doit se rendre à Saint-Pétersbourg le 24 et 25 mai dans le cadre du Forum économique. C'est d'ailleurs l'invité d'honneur. Mais depuis cette invitation, il y a eu les frappes aérienne sur la Syrie, il y a cette affaire Skripal, ses conséquences. La France a expulsé 4 diplomates. Et puis il y a ces divergences sur le dossier nucléaire iranien. Est-ce que le réchauffement qu'on a vu des relations franco-russes, notamment avec la visite de Vladimir Poutine à Versailles en mai 2017, est-ce que ce réchauffement se refroidit, si je peux permettre la formule?
Écoutez, il est à reconnaître que... tout ce qui se passe actuellement dans le monde ne nous facilite pas la tâche de tourner la page et d'améliorer de façon spectaculaire les relations franco-russes, qui étaient d'ailleurs toujours très constructives, pragmatiques et correctes. Le fait que cette visite en Russie est toujours maintenue dans l'agenda du président français, c'est un fait qui dit lui-même que les dirigeants français veulent toujours dialoguer avec la Russie, et nous, la Russie est toujours prête à maintenir ce dialogue. La visite, on attend le président français en Russie. C'est une visite qui peut donner un essor supplémentaire pour le développement de nos relations, même si les divergences
réchauffer ce qui s'est refroidi depuis.
Évidemment.
Il y a un dossier sur lequel la France a été très active, enfin l'est encore d'ailleurs, c'est la guerre en Ukraine, avec ce qu'on a appelé le processus de Minsk, qui a été signé par la France, enfin par la Russie, l'Ukraine, en présence de la France et de l'Allemagne.
Et en présence de la Russie, parce que la Russie n'est pas un pays signataire.
Tout à fait, c'est entre le gouvernement de Kiev et les séparatistes. Bon, Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, il a dit, si Minsk ne marche pas, il faudra trouver autre chose. Là, ça fait un an, rien ne se passe. C'est toujours la stagnation, une sorte d'état de ni guerre ni paix, enfin plutôt guerre que paix, etc. Est-ce qu'il faut faire autre chose, passer à autre chose que Minsk? Ça n'a pas marché, il faut un nouveau processus.
La Russie n'a pas d'autre proposition. Nous sommes toujours attachés à la mise en œuvre complète des accords de Minsk. Le problème, c'est que, selon notre position très ferme, la balle se trouve sur le champ des Ukrainiens, chez les Ukrainiens, parce que Kiev officiel, pour l'instant, n'est pas capable ou ne veut pas réaliser les dispositions politiques des accords de Minsk. L'Ukraine, l'État ukrainien veut prendre sous son contrôle la frontière entre la Russie et l'Ukraine, dans les régions de Donetsk et de Lugansk.
Donbass.
C'est prévu, ouais, c'est prévu par les accords de Minsk, mais c'est la toute dernière étape. Avant, il faut passer d'autres choses, il faut réaliser d'autres choses, il faut adopter une loi sur l'autonomie de ces deux régions, il faut adopter la loi sur l'amnistie, il faut organiser les élections locales, donc il faut respecter l'ordre du jour, la feuille de route dessinée par les accords de Minsk. En fin de compte, l'Ukraine va prendre sous son contrôle la frontière avec la Russie.
Monsieur Soudennikov, on a un peu l'impression, Emmanuel Macron étant un pro-européen convaincu, on a un peu l'impression que ce qui coince en fait entre la France et la Russie aujourd'hui, c'est cette volonté de la France de remettre l'Europe sur le droit chemin et vraiment de ressouder les Européens. On sait que Vladimir Poutine a reçu les candidats les plus eurosceptiques. Il y a une sorte de volonté de... Est-ce que c'est pas un calcul dangereux de la part de Moscou de ne pas souhaiter une Europe forte à ses portes?
Je peux vous dire que nous souhaitons l'Europe forte, unifié, mais indépendant dans ses actions. Aujourd'hui, nous avons... Indépendant des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons l'impression que, malheureusement, certaines démarches, certaines prises de position sont dictées par cette solidarité transatlantique ou par cette pression accordée par les États-Unis de l'époque même de Barack Obama. Telle est notre vision des choses. Voilà pourquoi, je répète, nous voulons avoir devant nous l'Europe unifiée et forte et indépendante.
Puisque vous parlez de cette relation transatlantique, revenons sur le voyage d'Emmanuel Macron à Washington ces derniers jours. Il a affiché une grande complicité avec le président Donald Trump. Est-ce que une telle complicité peut exister entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Est-ce que vous la souhaitez sur ce registre-là?
Vladimir Poutine était reçu à Versailles.
Non, mais la complicité, l'amitié affichée entre Donald Trump...
L'amitié affichée, mais écoutez, tous les gens sont différents. À ma connaissance, président Poutine est un peu plus réservé comme une personnalité.
Moins tactile.
Moins tactile. Il a une autre façon de voir un autre comportement dans la vie.
Mais quel regard
vous avez porté? On ne peut pas les comparer.
Quel regard vous avez porté?
Non, je ne peux pas commenter ça.
Vous ne pouvez pas
commenter ça. En tout cas, je peux vous rassurer que c'est l'accueil tout à fait hospitalier et chaleureux qui attend président Macron en Russie.
Et qu'en est-il d'une éventuelle rencontre, au bout du compte, entre Vladimir Poutine et Donald Trump?
Donald Trump a mentionné l'éventualité d'une telle rencontre, mais pour l'instant, nous n'avons pas reçu des propositions concrètes. Donc, écoutez, vous saurez un jour si on arrive à trouver un créneau dans leur agenda et un endroit pour organiser cette rencontre. Un jour, vous verrez ça.
Puisqu'on parle des États-Unis, aux États-Unis en ce moment, il y a enquête en cours sur une éventuelle collusion entre votre pays et l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016. Alors, pour avoir mené des campagnes de propagande contre Hillary Clinton, alors notamment via Internet, à ce jour, il y a 20 inculpations par le procureur spécial en charge de l'enquête. Il y a les quatre anciens conseillers de Donald Trump, mais il y a aussi 13 citoyens russes et 3 entreprises domiciliées en Russie. Votre réaction, vous, à ces inculpations?
13 citoyens
russes.
Et qu'est-ce qu'il y a avec eux? Ils sont accusés?
Ils sont inculpés. Et 3 entreprises domiciliées en Russie. Alors, j'aimerais avoir votre réaction à ces inculpations, celles de vos ressortissants et de ces entreprises.
Écoutez, je ne connais pas ce dossier. Je sais que...
Vous ne suivez pas l'enquête en cours?
Écoutez, une enquête interminable qui dure déjà des mois et des mois. Ce que je peux vous confirmer, c'est que nous n'avons reçu aucune demande officielle de la part de nos partenaires américains. Une demande qui concerne cette... ingérence qui a eu tant de qui a fait couler tant d'encre. On n'a reçu rien du tout. Nous n'avons aucune demande officielle, aucune preuve, aucun fait. Donc c'est une affaire purement américaine ou américaine.
Et Monsieur Soudennikov, est-ce que vous êtes déçu par Donald Trump? Il est arrivé, il disait énormément de choses positives sur le président Poutine, sur la Russie, sur une volonté d'avoir une relation personnelle forte. Et puis finalement, c'est l'homme qui prend des sanctions beaucoup plus dures que celles qu'a prise Barack Obama, alors que Barack Obama, vous ne l'aimez pas beaucoup déjà. Finalement, Trump, il est plus dur sur la Russie que Obama. Ou alors, est-ce que c'est une question de la superstructure du système?
Non, est-ce qu'il y a l'otage? Nous comprenons très bien que le système politique américain est tel que le président, parfois, il est tout simplement coincé, il ne peut pas agir comme il veut, il y a un congrès, c'est du système américain. Mais je peux vous dire que on était prêt de travailler avec n'importe quel candidat américain qui gagne des élections. On avait certains espoirs après l'arrivée au pouvoir de Trump. Nous restons toujours ouverts au dialogue et aux échanges. On constate en même temps que jamais les relations russo-américaines n'étaient pas si mauvaises depuis l'effondrement de l'Union soviétique. C'est une chose absolument déplorable. Nous sommes évidemment déçus parce que nous avons trop de choses à faire ensemble, comme avec tous les partenaires occidentaux et pas uniquement occidentaux. Nous sommes pour cette coopération élargie. Nous avons trop de défis. Nous avons trop de menaces. Il faut travailler ensemble au lieu de inventer des choses absolument artificielles, irrationnelles. Donc nous sommes un peu déçus, mais nous sommes patients.
Quand vous voyez que Donald Trump a nommé comme secrétaire d'État Mike Pompeo, l'ancien chef de la CIA, qui lui-même avait des déclarations extrêmement de très grande fermeté par rapport à Moscou, qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord qu'il commence son travail, qu'il reste quelque temps au département d'État, parce que nous voyons que ces fonctionnaires d'État américains se changent trop souvent. On va attendre. Il vient d'être nommé, n'est-ce pas, il y a quelques jours. Donc laissez-lui quelque temps pour voir, parce que il y a un autre personnage.
Il est venu devant les ministres de l'OTAN. Il n'y a pas eu de déclaration à l'emporte-pièce contre Moscou.
On va voir.
Par contre, c'est lui qui et son organisation qui a sorti un rapport sur la cyberguerre qui, selon lui, a été lancée depuis une décennie par la Russie contre les États-Unis. Qu'est-ce que vous en dites?
Nous avons commenté plusieurs fois toutes ces allégations sur l'ingérence des hackers russes. Décidément, paraît-il que ces hackers peuvent nommer et destituer des présidents. Non, pour nous, c'est de la foutaise. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes prêts à coopérer dans le domaine de la sécurité informatique. Il y a plusieurs formats, il y a plusieurs mécanismes. Nous avons proposé à nos partenaires américains d'organiser des consultations spécifiques consacrées à ce problème. Pas de réponse pour l'instant.
Alors, si vous voulez bien, poursuivons. Il y a quelques mois, en décembre dernier, la version française de la chaîne de télévision russe Russia Today a été lancée. Elle a été qualifiée, avec l'agence de presse Sputnik, d'organe d'influence par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse avec Vladimir Poutine à Versailles, notamment pour le rôle qu'elle aurait joué pendant la campagne présidentielle française. Comment vous réagissez-vous à ce qualificatif du président français ?
Écoutez, je ne pense pas que je suis en mesure de commenter la prise de position du président français, mais je sais que Russia Today et Sputnik, ils ont des licences délivrées par les structures d'État français qui sont chargées de coordonner le travail des masses médias étrangers. À ma connaissance, ces deux masses médias respectent toutes les règles qui existent en France et le travail.
Une procédure d'enquête en Grande-Bretagne.
La loi, par exemple, sur les fake news qu'a annoncé le gouvernement Macron et qui va passer au Parlement durant l'année 2018, elle est dirigée contre ces deux médias-là.
Je ne sais pas, peut-être, mais je sais que les journalistes de ces deux masses médias font leur travail. Le travail est très, à mon avis, de très haute qualité et très qualifié.
Vous trouvez que ces deux médias donnent une bonne image du degré d'indépendance de la presse en Russie?
Comment?
Vous trouvez que ces deux médias donnent une bonne image de l'indépendance de la presse dans votre pays?
Je sais que ces deux masses médias donnent la vision russe sur les choses qui se passent dans le monde. Et je pense que nous avons droit de présenter notre opinion, notre regard.
La vision du pouvoir russe.
La vision du pouvoir russe, mais oui, c'est comme ça. Jamais la Russie n'avait pas des chaînes qui travaillent pour le monde extérieur. pour la première fois dans notre histoire, nous avons investi dans ce travail-là pour porter, la position de l'État russe, si vous voulez. Mais est-ce que c'est un crime ?
Alors, le temps passe très vite. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cet entretien. On aurait aimé évoquer ce qui se passe à vos frontières, notamment avec l'Arménie, où il y a un grand tumulte ces derniers jours. Sous la pression populaire, le Premier ministre a démissionné. Moscou a dit que cela relevait des affaires intérieures arméniennes. Mais cette semaine, le vice-premier ministre arménien et le ministre des Affaires étrangères étaient à Moscou en consultation. Aujourd'hui, il est question d'une médiation russe, c'est ça ?
Je n'ai pas entendu parler qu'il y a déjà, qu'on parle d'une médiation russe. Nous répétons, nous avons dit ça, et je peux vous répéter que c'est une affaire intérieure de nos frères arméniens. Mais qu'est-ce que vous voulez ? L'Arménie et la Russie sont très liées.
Très liées, oui.
Ce sont deux États frères. Nous avons des liens énormes. Nous avons une base militaire. Nous avons vraiment multiples accords bilatéraux. Nous respectons la volonté du peuple arménien et nous espérons que tout va rester sur le terrain constitutionnel et nous espérons que toutes les forces politiques arméniennes trouvent une solution à cette crise.
Est-ce que vous avez une objection à Nicole Pachinian, c'est-à-dire l'opposant principal, celui qui a appelé à la démission de Sarkissian?
Nous n'avons pas de commentaires spécifiques. Je peux vous dire qu'il est en contact avec les représentants russes en Arménie. Il est en contact avec les représentants américains en Arménie. Il parle à tout le monde. Et voilà, nous ne pouvons que souhaiter au peuple arménien de sortir au plus vite possible de cette situation, de stabiliser la situation et que le Parlement et le gouvernement reprennent son travail.
Une toute dernière question peut-être avant de terminer. En juin prochain, la Russie va accueillir la Coupe du Monde de foot. Le 27 mars dernier, lors du dernier du match amical France-Russie, il y a eu des cris d'imitation de singes qui ont retenti dans les tribunes. Ils visaient des joueurs français. Une procédure disciplinaire de la FIFA a été lancée contre la Fédération russe de foot. Il y a une ONG qui travaille sur ces questions de discrimination. Elle a recensé 89 incidents pour la saison 2016-2017. Est-ce que la Russie, les autorités russes, vont prendre des mesures pour éviter que ces incidents se reproduisent, puisque vous êtes l'organisateur de la Coupe du monde de foot.
Nous allons faire tout notre possible pour
mais
organiser.
Mais comment concrètement
Je pense. Bon, écoutez.
Est-ce que vous allez interdire par exemple,
Je pense que le ministère de l'Intérieur va effectuer un travail de sensibilisation avec les associations des supporters de football. Et je vous assure qu'on va assurer le niveau de sécurité maximal partout en Russie où les matchs seront organisés.
La sécurité, c'est une chose, la discrimination, ces actes racistes.
De ce point de vue aussi, je parle de la situation globale. Mm-hmm. Vous comprenez qu'on ne peut pas éviter tout. On ne peut pas mettre un policier sur chaque tribune près de chaque supporteur. On va faire tout notre mieux.
Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'y prendre un peu plus tôt pour éviter qu'au moment de la Coupe du Monde, il y ait ce type d'agression?
Écoutez, les matchs sportifs, des grandes compétitions sportives se passent tout le temps en Russie, très souvent. Je ne parle pas des Jeux Olympiques de Sochi, qui sont passés magnifiquement, et je n'ai pas entendu parler d'un incident majeur. Cette fois-ci, évidemment, on va faire tout pour éviter des incidents pareils, qui sont évidemment déplorables.
Artem Stoumenikov, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous, auditeurs, téléspectateurs. Merci Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde. On se retrouve la semaine prochaine et on compte sur votre fidélité. Au revoir.